on va s'en jaillir.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots qui vous souhaite bienvenue sur RFI et qui voudrait, comme elle le fait à peu près tous les jours, converser avec ses auditeurs. Converser, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? On le saura peut-être un peu mieux et un peu plus quand on aura fait le point sur le festival des conversations qui va se dérouler essentiellement pendant deux journées, celle de demain, le 11 avril, et ensuite le 16 avril. Carlos Moreno et Guillaume Villemot, qui sont deux de ses animateurs principaux, sont venus en parler dans cette danse des mots. Bonjour Guillaume Villemot.
Bonjour
Carlos Moreno.
Bonjour.
Alors, dites-nous pourquoi il existe justement un festival des conversations. Pourquoi la conversation a-t-elle besoin de cette manifestation pour avoir plus d'écho, pour avoir plus d'importance, plus d'expansion?
Parce que la conversation fait partie de notre quotidien finalement, mais que c'est bien de temps en temps de se poser, de s'arrêter et de prendre le temps de réfléchir à la place justement que la conversation doit avoir dans notre société. Et que ces dernières années, moi j'ai tendance à trouver qu'elle est un peu malmenée cette conversation. Or c'est la meilleure façon finalement aujourd'hui de faire tomber les barrières, faire tomber les a priori, parce que quand on ose rentrer en conversation avec quelqu'un, finalement on apprend à se découvrir soi-même, mais surtout à découvrir et à entendre l'autre. Et donc une fois par an, et maintenant c'est un rythme assez régulier, donc avec au minimum une fois par an des manifestations autour du festival, on a envie de se poser. On a envie de prendre le temps, parce que finalement une conversation c'est ça, c'est prendre le temps. On a envie de prendre le temps de tourner autour de grandes thématiques et de sujets différents. Et cette année, on a choisi comme thème Portrait de conversation, qui a pour ambition de montrer un petit peu toutes les formes de conversation qui peuvent exister, d'une part à travers le monde, mais aussi toutes les formes qui peuvent exister parce que l'arrivée des nouveaux médias, parce que l'arrivée des nouvelles technologies nous fait aussi évoluer et vivre nos conversations différemment.
Alors, pourquoi un festival, justement? Qu'est-ce que c'est que ce festival? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes?
Alors, le principe est toujours le même. Le principe consiste à avoir des conversations qui sont ouvertes au public, pour que tout le monde puisse venir se mêler aux conversations. Donc, c'est gratuit déjà, c'est important. Et puis ensuite, sur à chaque fois une thématique différente, donc encore une fois, cette année, portrait de conversation, on fait venir le public et ce que moi j'appelle des conversateurs, donc des gens comme Carlos, qui viennent apporter... eux aussi leur brique à cet édifice qui est une conversation. Converser, c'est faire avec. Et donc l'objectif, c'est qu'à chaque fois, pendant deux jours, pendant trois jours, ça dépend des formats, eh bien autour de ce thème-là, on se retrouve et on donne aux gens le goût de la conversation. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens repartent chez eux en me disant « Ah ben ouais, finalement, c'est pas très compliqué et on peut le refaire chez soi ».
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'une conversation? Il y a un certain nombre de mots en français et dans à peu près toutes les langues qui désignent justement le fait de se parler l'un à l'autre. Très souvent, par exemple, on est convié à des débats. Après un film, après une pièce de théâtre, après même une manifestation politique, on vient débattre, c'est-à-dire dire « je suis d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela », etc. Quelle frontière est-ce que vous voyez justement entre ce qu'on peut appeler le débat, la discussion, le bavardage et le mot qui a retenu votre attention, qui est le mot de conversation?
Alors, j'écrivais un petit papier hier soir sur ce sujet-là, et ce que je disais, c'est que finalement, débat, bavardage, ont endossé les habits de la conversation, ont fait une espèce de camouflage en essayant de se faire passer pour des conversations. Or, c'est pas des conversations. La grande différence...
Déjà, débat et bavardage, c'est très différent.
C'est très différent, tout à fait, hein. Complètement, on est bien d'accord. La grande différence, finalement, entre la conversation et ces deux autres formes d'oralité, provient du fait que dans la conversation, vous allez accepter d'entendre le point de vue de l'autre et de le respecter. Une conversation, vous vous y engagez, vous y rentrez avec bienveillance. Il y a une part de générosité dans la conversation. C'est-à-dire que la conversation, elle va faire en sorte qu'à un moment donné, je vais me dire, le point de vue de l'autre est entendable. Je peux ne pas être d'accord, on n'est pas dans une espèce de consensus mou, on est dans quelque chose qui peut être animé. Mais contrairement au débat où on va vouloir asséner une vérité à l'autre en disant c'est moi qui ai raison, dans la conversation, il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Dans la conversation.
À votre avis, il y en a toujours dans le débat, c'est un côté plus agressif parce que il peut y avoir des tas de formes de débat. différentes. On peut débattre d'un sujet, c'est-à-dire donner son opinion et écouter ce que va dire celui qui est en face.
Mais dans débattre, il y a battre déjà. Donc il y a cette notion de conflit, il y a cette notion de confrontation. Ce qu'on n'a pas dans la conversation vraiment. C'est-à-dire que moi je pense que c'est vraiment ça la vraie grande différence. Et c'est que le débat va faire qu'on va rester chacun campé sur nos positions au final. J'ai jamais vu. Mais je veux bien me tromper, j'ai jamais vu encore un débat par exemple entre hommes politiques qui ferait qu'à un moment donné deux adversaires diraient ah mais vous avez raison finalement et d'avoir entendu vos arguments. Je sais pas si dans
ça c'est un débat particulier, ça serait un débat public dont l'enjeu n'est pas tellement de convaincre l'autre mais de convaincre ceux qui vous entendent de voter pour vous ou bien de rejoindre en gros vos positions. C'est un débat en public pour le public. Donc, on ne parle pas vers l'autre. On parle vers ceux qui entendent ce que les deux personnes se disent.
Oui, et puis on parle beaucoup à soi-même. C'est-à-dire que c'est ça aussi la grande différence. C'est que la conversation, c'est fait pour être... On entend l'autre. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je dis toujours qu'une conversation, ça repose énormément sur la notion de temps et sur la notion de ne faire qu'une seule chose à la fois. C'est-à-dire qu'un bavardage va être quelque chose... Une conversation peut être futile, donc le bavardage peut tout à fait être futile aussi, mais le bavardage va être très superficiel. On ne va pas avoir cette notion d'interpénétration ou d'interconnexion, finalement, avec l'autre. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment de comment je fais pour, à un moment donné, créer ce lien qui va me rapprocher de l'autre. Et la meilleure façon de le faire, c'est de rentrer en conversation.
Approchez-vous de ma vie. Approchez-vous sur le lit. Approchez-vous dans la nuit noire. Nous parlerons jusqu'à très tard. Approchez-vous maintenant. Racontez-moi le présent. Sous les plafonds, tout ira bien. Il ne se passera rien. Ne restez pas là. Approchez-vous de moi. Ensemble, faisons la conversation.
Festival de la conversation, donc les 11 et 16 avril. Alors, dites-moi, Guillaume Villemot, puisque vous êtes l'un des animateurs principaux de ce festival, qu'est-ce qui va se passer lors de cette nuit de la conversation que vous organisez ?
Alors, on va avoir trois grandes thématiques de conversation qui vont être organisées. Entre autres, et c'est pour ça que je voulais avoir absolument quelqu'un comme Carlos pour animer ça avec moi. Ce qui est important, c'est de montrer à quel point la ville a à la fois déconstruit pendant un temps les conversations et a supprimé les lieux, les espaces de conversation, et aujourd'hui est en train de les réinventer et en train de les reconstruire. Et en même temps, Carlos, il a cette force-là, c'est d'avoir cette connaissance de ce que sont les villes aujourd'hui et de cette culture internationale qui montre à quel point justement les formes de conversation sont différentes d'une culture à une autre et la façon dont on fait les conversations d'un pays à l'autre.
Alors qu'en pensez-vous, Carlos Moreno? Vous travaillez, vous êtes universitaire et vous travaillez justement en particulier sur la sociologie des villes, la vie dans les villes et dans les villes d'aujourd'hui qui ne sont pas les villes d'hier, qui sont différentes. D'abord, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus grandes. On n'a jamais vu de ville aussi grande jusqu'à la fin du XXe siècle. Est-ce que vous avez l'impression que cette expansion de l'urbanisme, de temps en temps, modifie les rapports des gens, modifie la façon dont on peut se parler, dont on peut converser?
Bonjour, totalement. Aujourd'hui, 80% de gens qui habitent sur la planète sont concentrés sur 2% de sa surface. Donc, pour dire que la ville est les lieux dans lesquels aujourd'hui les hommes naissent et les gens meurent, et qu'il y a une culture urbaine qui est née. Cette culture aujourd'hui est traversée par des profondes mutations, et une parmi elles est la manière comme il se tisse des liens entre les hommes et les femmes dans ces territoires. À l'heure du numérique, le numérique est venu avec son langage des hiéroglyphes, donc au travers des émoticônes et autres, remplacé pour une certaine génération, donc la conversation, puisque que ça soit au travers les SMS, les MMS, WhatsApp et autres, la conversation dite instantanée, que j'appelle pas une conversation, mais cette communication par cette espèce d'écrit qui émerge, est venue remplacer pour certains la richesse des mots dans leur expression orale, qui ne sont pas uniquement des mots, mais sont également des ressentis de l'âme. Edgar Morin disait lors d'une conférence auquel j'ai eu le plaisir de l'inviter à la clôture, quand les gens conversent, quand ils se disent bonjour, quand l'autre lui répond bonjour, tout simplement, on est en train de dire à l'autre, tu existes. Et au travers les cultures du monde...
Mais ça, ça existe aussi dans les nouveaux modes de communication. Justement, il y a des rituels d'entrée, des rituels de sortie. Et parfois même, les échanges ne sont plus que cela, que ces espèces de mots rituels qui servent à dire « Est-ce que t'es là ? Moi, je suis là. »
C'est la grosse différence qui se pose aujourd'hui par rapport à la problématique urbaine, où les hommes et femmes donc partagent ces territoires et qui sont aujourd'hui face à... des besoins primaires importants, donc c'est loger, travailler, c'est soigner, s'éduquer, et que le lien social au travers de la conversation, c'est dilué. Quand vous regardez des cultures d'ailleurs, en Afrique par exemple, l'arbre à palabre, qui était un moment important dans la vie du village et dans la vie de ceux qui étaient attachés à cet endroit-là, puisque c'était un lieu de réflexion, c'était un lieu d'échange, c'était un lieu où on pouvait aussi régler des difficultés. Quand vous regardez en Amérique latine, los parques, qui sont des espaces publics, souvent donc au milieu, donc de c'était les centres-villes en fait, et tout ce qui s'est représenté avec ces palmiers ou avec ces arbres, avec ces bancs publics, souvent à côté d'une église, hein, qui permettait aux gens de se retrouver à la sortie et qui constituait le cœur du lien social. Si vous regardez également aux États-Unis, donc le rôle des grands parcs dans lesquels les gens se retrouvent pour faire du jogging, pique-niquer, se parler, tout ça, ce sont des expressions d'un lien social important et fort qui est véhiculé par un échange qui n'est pas que protocolaire. La difficulté aujourd'hui des conversations, c'est qu'elle devient protocolaire. Vous savez que dans l'ancien temps, quand on disait « comment ça va ?», c'était pour indiquer comment ça allait son corps. Si on...
oui,
aujourd'hui, ça devient une formalité encore.
Ça a été assez rapidement oublié. C'est vrai que ça devient très abstrait. « Comment ça va ?», en effet, ça veut dire comment digères-tu ?
Comment on digère,
comment évacues-tu ce qui est en trop, etc. Mais ça a été oublié très vite et c'est devenu justement un mode d'accès à l'autre. Mais en effet... On pose d'abord cette question, comment es-tu ? Comment te sens-tu ? Es-tu en bonne santé ?
Bien sûr. Je crois que Guillaume Villemot disait quelque chose d'important concernant le fond de l'art de la conversation que j'élève au niveau de l'art. C'est la capacité à comprendre l'autre et que je rattache à cette notion très, très importante dans la vie urbaine aujourd'hui qui est l'altérité. C'est-à-dire la capacité non seulement d'écouter l'autre, mais que le regard de l'autre puisse traverser les miens. Puisque on puisse également non seulement changer d'avis, mais tout simplement voir d'autres choses qui amènent à penser autrement par rapport à ce qui nous entoure. Et c'est aujourd'hui la plus grosse difficulté à l'heure de fake news, à l'heure de vérité assommée par des centaines de messages par jour, à l'heure où la vérité est complètement malmenée, à l'heure où on est obligé de faire pratiquement du fact-checking, donc de la preuve de tout ce qui s'est dit partout dans le monde, rien ne peut aujourd'hui remplacer le fait que l'art de converser, ça permet d'approfondir un sujet. Et ce que disait Guillaume Villemot était extrêmement important par rapport au style des conversations, dérouler un fil des pensées contradictoires dans le respect et qu'on puisse dire tu as raison, sur ces points-là, je suis clair avec toi, sur ces points-là, je me suis trompé, je pense que j'avais cru voir ça, et finalement, c'est ça. Dans combien de conversations qui émergent aujourd'hui, on accepte que notre vérité soit ébranlée. Ce qu'on appelle souvent des conversations dans la vie professionnelle, souvent dans des relations familiales, c'est tout simplement soit raconter des banalités, soit tout simplement rester sur des vérités acquises a priori. Et dans tous ces lieux dont j'ai évoqué des cultures très différentes, qui peuvent remonter aux cultures indiennes, aux cultures tribales, aux transformations qui se sont produites ensuite quand on a eu le développement urbain, la grande transformation, c'est que la ville a vidé de sa substance propre l'être qui converse, tout simplement pour acquérir de nouvelles cultures, pour acquérir de nouveaux horizons. C'est pour ça que ces espaces sont précieux, qu'il faut les développer, qu'il faut les préservé. Albert Camus disait « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde ». Et aujourd'hui, on doit bien nommer les conversations.
Oui, mais on ne converse pas de la même façon dans toutes les villes. Vous vous intéressez justement aux villes. Quand on va d'une ville à l'autre, le bruissement de la ville est extrêmement différent. La façon dont les gens parlent ou se taisent est extrêmement différente. Quand vous êtes à Paris, par exemple, dans le métro, si jamais le métro s'arrête entre deux stations, il y a un silence d'une lourdeur extrême. Si vous allez à Naples et que vous prenez le funiculaire, si le funiculaire s'arrête, il y a un brouhaha absolument extraordinaire car tout le monde se parle. Et ce ne sont pas des gens qui se connaissent, ce sont des gens qui rentrent chez eux après le travail. Ils sont peut-être de temps en temps croisés dans la rue ou peut-être jamais, ils ne savent pas comment ils s'appellent. Ce sont des gens qui habitent le même quartier ou la même ville et qui parlent tout le temps. Je prends cet exemple de Naples parce que c'est un exemple vécu et il n'y a pas si longtemps. Alors que à Paris, c'est extraordinaire le silence qu'il peut y avoir quand tout d'un coup, il y a des gens qui sont mis les uns en face des autres, dans, par exemple dans un transport public.
Mais je crois qu'on a une inégalité. On a considéré pendant très longtemps et on considère encore en France que l'art de la conversation est un art français, etc. C'est un art très codifié et c'est un art qui n'est pas un art populaire.
Oui, là, vous faites référence à ce qu'on appelait l'art de la conversation au XVIIIe siècle,
exactement,
qui était un art de salon et un art où il fallait briller. C'était une conversation tout à fait particulière
qui était
permettait
totalement codifiée.
De s'évaluer les uns les autres.
Mais aujourd'hui, du coup, le fait que ça ait été construit comme ça, que la conversation ait été construite comme ça dans notre pays, fait que nous sommes des handicapés de la conversation en France. Vous parlez de Naples, mais je peux vous prendre le même exemple à New York, où il y a une association avec laquelle on travaille beaucoup, qui s'appelle Free Convo, qui organise des conversations gratuites et publiques sur l'espace public, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils installent un canapé, ils mettent une petite pancarte avec marqué « Aujourd'hui, notre sujet de conversation, c'est ça ». Et les gens viennent spontanément s'arrêter, et les gens viennent spontanément se mêler à la conversation. On a fait une expérience à Paris, il y a 3 ans, sur les berges de Seine, et on avait des espaces de conversation qui avaient été aménagés. Il fallait pratiquement qu'on aille chercher les gens et qu'on les ramène à l'intérieur pour qu'ils osent se mêler à la conversation. Donc on a, je pense, une espèce de handicap. Parler des différentes formes de conversation et des différentes façons de rentrer en conversation. Si on prend le Maghreb, on a tout ce cérémonial du début de la conversation qui est très important. Justement, comment vas-tu? Comment va ta famille? Qui sont à la fois une marque d'intérêt pour la personne.
Oui, qu'on trouve dans des cultures extrêmement diverses.
Exactement.
Il n'y a pas qu'au Maghreb.
Et qui sont des choses où, en tout cas, où la réponse que la personne va nous donner est prise en compte. Et nous, on est arrivé à un moment où on ne prend pas en compte ce que nous répond l'autre ou ce que nous dit l'autre.
Moi, je pense que par rapport à cette question de où commence la conversation et où ça devient le brouhaha, c'est fondamental aujourd'hui dans nos villes parce que dans le monde urbain, il y a un concept sur lequel je travaille énormément qui me paraît fondamental, qui est l'utilisation de l'espace public et l'espace public comme lieu de brassage. Et la grande différence, comme vous citez les villes du Sud, on part de l'Afrique ou de l'Amérique latine par rapport aux villes européennes, plus ça remonte vers le Nord, c'est l'utilisation que nous faisons de l'espace public par rapport à notre corps et par rapport à notre expression orale. Quand vous êtes dans des villes chinoises, il est tout à fait normal, voire dans les espaces publics, dans les rues, dans les parcs, dans les squares, soit le matin, soit le midi, soit le soir, hein, et des personnes, y compris des personnes âgées, qui font des tai chi, qui font des qigong, qui s'expriment au travers leur corps dans l'espace public.
C'est
une conversation.
C'est assez silencieux.
Mais c'est une conversation, puisque c'est le corps qui s'exprime. C'est pour ça que je disais par rapport à Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde.
Alors pourquoi dites-vous justement que c'est une conversation?
C'est très intéressant,
une conversation, c'est quand même, c'est aussi se manifester et attendre que l'autre se manifeste en retour.
Alors, c'est très intéressant puisque justement, Guillaume m'a proposé de participer à cette aventure depuis un certain temps et cette année, ses portraits de conversation, c'est-à-dire plein de manières de converser. Et quand on est en Chine, dans ces différentes villes, que ce soit à Shanghai, Beijing, et qu'on a ces manifestations des expressions du corps autour du Qigong ou des Tai Chi de manière publique, il y a un maître, bien sûr, qui donne le mouvement, il y a quelque chose qui suit. Mais la manière comme ça se fait, ça se fait pour être avec l'autre, pour créer une harmonie, pour développer et pour être ensemble. Cette pratique, elle est souvent silencieuse par rapport à la parole. Mais elle exprime également une harmonie par rapport à l'environnement. Vous savez que les Qigong et les Tai Chi, ce sont des énergies sur lesquelles on travaille par rapport au ciel, par rapport à la terre et surtout par rapport à l'autre. C'est une manière de être avec l'autre, qui est l'essence même de la conversation. J'ai dit, bien nommer les choses, c'est être dans le bonheur du monde. Et les brouhahs qu'on peut évoquer, quand vous êtes dans des grandes villes comme Delhi, par exemple, quand vous êtes dans des grandes villes comme Lahore, quand vous êtes en Afrique du Sud, quand vous êtes dans l'espace public, le même espace public est utilisé différemment. Parce que ce que vous appelez le brouhaha, c'est des expressions de la vitalité des hommes et des femmes qui partagent cet espace. Parce que ils crient pour vous vendre quelque chose, parce qu'ils saluent le frère qui est passé, parce qu'il y a le cousin qui est là. Ce sont des expressions de la vie. Et quand nous revenons sur notre vieille Europe, quand vous êtes à Paris, quand vous êtes dans les Nord, à Stockholm, en Oslo, la manière comme les corps et la parole s'expriment dans l'espace public et dans la retenue. Et cette retenue a fait que les espaces territoriaux de conversation aient changé. Et que l'espace de conversation est devenu un espace à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on discute chez soi, on discute avec des amis quand on les invite. Mais dès que les gens quittent les paliers, ils disent, on peut pas discuter parce qu'il y a peut-être, il faut parler plus bas. C'est la notion même de ce qu'on engage dans la conversation. Ce qui ramène parfois à que cette conversation peut perdre son essence. D'où l'importance de rendre public l'art de la conversation pour qu'il ne soit pas un art, mais pour qu'il soit au-delà une pratique sociale.
Ben c'est ce qu'on pourra voir très certainement demain et le 16 avril. Il y a quelques minutes, on écoutait Françoise Fabian nous dire ce qu'elle pensait de la conversation amoureuse. Eh bien, on va interroger maintenant Simon & Garfunkel.
It's a still life watercolor of a now late afternoon. As the sun shines through the curtain lace and shadows wash the room. And we sit and drink our coffee, couched in our indifference, like shells upon the shore. You can hear the ocean roar in the dangling conversation and the superficial sighs, the borders of our lives. And you read your Emily Dickinson, and I my Robert Frost. And we note our place with bookmarkers that measure what we've lost. Like a poem poorly written, we are verses out of rhythm, couplets out of rhyme, in syncopated time. And the dangling conversation and the superficial sighs are the borders of our lives.
La danse des mots à propos de ce festival des conversations qui se tient donc les 11 et 16 avril et dont nous parlent Carlos Moreno et Guillaume Villemot qui mettent en avant cette année cette idée de conversation monde. Alors qu'est-ce que vous appelez la conversation monde ? C'est vrai que ce mot de monde, ça colle facilement ces derniers temps à un certain nombre d'autres. On parle de langage monde, de langue française monde. Qu'est-ce que c'est que la conversation monde ?
Je crois que la chance que l'on voit d'arriver aujourd'hui toute cette nouvelle technologie nous amène à réinventer, Carlos parlait tout à l'heure de hiéroglyphes, mais finalement d'une forme de conversation qui va mélanger à la fois le mot et l'image. Pendant des années, les gens qui ont inventé l'espéranto pensaient qu'ils allaient pouvoir créer une véritable conversation mondiale où on allait partager un certain nombre de choses.
Oui, ça a raté.
Ça a raté complètement. aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, qui pour le coup est en train vraiment de prendre et d'apporter véritablement quelque chose de nouveau dans les conversations, c'est l'apparition des émoticônes. Alors, les premiers émoticônes...
Alors, rappelez-nous ce qu'on appelle
donc, les émoticônes, ce sont ces petites images qui au départ étaient faites en nombre de pixels et qui sont faites pour, c'est ce que les Canadiens appellent des images à émotion, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour apporter ça, c'est-à-dire que dans un échange qui est un échange purement écrit, d'apporter au départ un sourire, une intention, un pouce levé, etc., etc. Ces premiers émoticônes qui ont été inventés sous une forme un peu travaillée par des Japonais sont même rentrés au MoMA l'année dernière comme étant des œuvres d'art. Et Dana Exposition qui a pu avoir à la Fondation Vuitton montrait d'ailleurs ces premières entrées d'émoticônes dans les musées.
Au MoMA, c'est-à-dire au Musée d'Art moderne à New York.
Et ce qui est intéressant avec ces émoticônes, c'est qu'on arrive aujourd'hui à faire deux choses. La première, c'est à apporter dans quelque chose qui était très froid, qui était par exemple un échange de SMS, apporter une émotion à l'intérieur. Parce qu'en y ajoutant un sourire, en y ajoutant une intention de quelque chose, on arrive à faire passer une première émotion. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive avec ces symboles qu'on peut totalement personnaliser, qu'on peut personnaliser en termes de forme, mais en termes aussi, j'allais dire presque de culture et de couleur de peau, on arrive à faire passer et à faire comprendre un certain nombre de messages sans y ajouter des mots. Et on voit bien que tout d'un coup, on commence à avoir une espèce de lien commun qui se crée entre nous tous et qui font que, je prends cet exemple-là parce que je trouve qu'il est assez intéressant au niveau des jeunes, vous avez un certain nombre de jeux vidéo. Alors, on tape beaucoup sur les jeux vidéo en disant que c'est des choses épouvantables. Certains permettent, en tout cas à des gens qui jouent en réseau, et à partir du moment où on y joue avec raison, de pouvoir rencontrer des gens qui ne sont pas installés à côté de chez soi. Et on va avoir un bien commun qu'on va partager. Et pour réussir à échanger dans ce bien commun, les émoticônes apparaissent comme étant une façon de créer et véritablement de développer une forme de conversation.
Vous avez l'impression que c'est plus qu'une ponctuation?
Oui, ça devient plus qu'une ponctuation.
Parce qu'au départ, c'est un petit peu ça.
Au départ, ce n'est que ça.
C'est un point d'exclamation, un point d'interrogation, un sourire ou une grimace. C'est une façon d'instiller un tout petit peu d'affect dans le contenu qu'on vient de dire ou d'écrire.
Ça a été inventé au départ, c'était des chercheurs américains qui s'enquiquinaient dans un congrès et qui utilisaient ça comme étant des façons de ponctuer les interventions des uns des autres. Donc on a dépassé le stade de la ponctuation et on est vraiment rentré dans celui de la construction de quelque chose. Alors, ça ne remplacera jamais la force d'une conversation comme on peut l'avoir tous les trois là en étant dans ce studio où on met tous nos sens en pratique, mais en revanche ça permet de commencer à construire quelque chose où on fait tomber les barrières et puis derrière y compris sur des outils comme Skype apparaissent des traducteurs immédiats où on peut faire une conversation avec une traduction immédiate.
Que sont ces traducteurs immédiats?
Alors c'est-à-dire que vous parlez en français à quelqu'un qui est russe et qui va via Skype immédiatement avoir une version traduite en russe de ce que vous êtes en train de lui raconter.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Guillaume Villemot et Carlos Moreno, d'être venus dans cette danse des mots, nous mettre au courant de ce festival des conversations. Je vous rappelle qu'il se tient en particulier les 11 et 16 avril en région parisienne, à Paris et au Mureau, qui est situé dans une banlieue extrêmement accessible. Bien entendu, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émission. À quelle émission? La danse des mots, bien entendu. Une danse des mots qui donc vous est proposée par le réseau Canopée et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar. Et la danse des mots, bien sûr, vous la retrouvez demain. Demain, c'est mercredi. C'est le jour de la puce à l'oreille. Et avant cette puce, rendez-vous avec un grand traducteur du russe vers le français. C'est André Markovitz qui vient de se livrer au risque de l'écriture qui n'était pas traduite. Il a fait paraître un livre, L'Appartement. C'est demain qu'il vient nous en parler. I'm gonna go.